Le lisible dans l'illisible, Françoise Stark Mornington s'entretient avec Clémence Hébert. Clémence Hébert, bonjour.
Bonjour.
Clémence Hébert, vous êtes cinéaste et comme vous tenez à le préciser, vous vous inscrivez dans le cinéma du réel. Vous avez été formée à l'INSAS et lors de la projection de La Porte ouverte au Centre d'animation Valère à Paris le 7 novembre 2014, le public de l'association De la main à l'oreille a pris connaissance de votre travail. À la question « Qu'est-ce que le réel ?», vous y répondez en explorant la vie, celle d'une famille, la vôtre, la vie d'un équipage à bord d'un chalutier, et puis, dans les forêts du Hainaut, aux étendues du désert marocain, vous apportez des éléments de réponse à « Qu'est-ce qui fonde mon être au monde ?». Pour vous, le réel semble s'ordonner autour de deux axes. Il y a l'immuabilité des saisons, le cycle des marées, le retour du jour après la nuit. Autrement dit, ce réel-là est prévisible. Le réel, pour vous, cependant, ne se réduit pas seulement aux formes concrètes de la réalité. Votre acte de création d'image semble être inspiré par un art de saisir ce qui surgit, ce qui surprend, comme dans La Porte ouverte et Drôle de pays. Dans le cas de ces deux courts-métrages tournés avec des adolescents considérés comme autistes ou psychotiques, le documentaire ici n'est pas un reportage, il est création, il est montage. Par des fragments visuels, vous convoquez le regard du spectateur sur des espaces où les contours sont flous, peu bordés. Vous avez l'art d'attraper les sujets pris dans l'impérieuse nécessité d'un monde où les choses obéissent à un ordre absolu. Vous mettez en tension le désir pris entre la difficulté d'être au monde lorsque, sur fond d'unité perdue, vous faites surgir la douleur de vivre, nouée à la perte, à la séparation, à la mort. C'est là, par votre savoir-y-faire de cinéaste, que vous tentez d'apporter une réponse. Du hors-sens, vous faites émerger une trace visuelle comme espace topographique de l'invisible venu dans la vision à l'aide de votre caméra-stylo, si je reprends votre expression. Alors, La Porte ouverte, pourquoi avoir choisi ce titre ?
Alors, le court-métrage La Porte ouverte a été fait tout simplement à l'Institut La Porte ouverte. La question du discours, de qu'est-ce que j'allais mettre comme mot pour ce film, a été une grande question qui me terrifiait un peu quand même au niveau de la responsabilité que j'avais prise envers ces jeunes. C'est-à-dire que, surtout pour un court-métrage et pour un film qui pour moi est préparatoire d'un film que je suis en train de faire maintenant, qui est plus long et plus, mûr aussi au niveau de ma réflexion sur la question que je suis en train de traiter. Je voulais un titre neutre. Donc c'était le nom de l'institut où se trouvent ces jeunes.
Oui.
Et en même temps, pour le spectateur, c'est une porte ouverte vers ce monde.
Ça, voilà. C'est un peu la métaphore que vous en avez saisie.
Voilà.
Alors pourquoi la psychose infantile et l'autisme pour un documentaire, pour vous ?
Alors, ça a été un long trajet. Donc on m'a invitée dans cette maison de vie où se trouvent des jeunes autistes mutiques. Donc la plupart ne parlent pas. Voilà, ça s'est fait par hasard, mais pas totalement.
Oui.
Dans le sens où j'étais en recherche d'essayer de me confronter à cette question de la folie qui m'intéressait depuis très longtemps, mais je ne savais pas trop comment entrer dans ce réseau, entrer dans les institutions. C'est vraiment une question très complexe, très délicate. Il fallait que je fasse des bonnes rencontres et qu'on m'invite à venir. Et là, en l'occurrence, j'ai rencontré une personne qui a pris le risque, parce que c'est quand même un risque.
Tout à fait.
Qui a pris le risque de me chapeauter comme ça. On débriefait tous les soirs. Et il m'a dit, voilà, amène ta caméra, ton objet, et on verra ce que ça donne. De toute façon, ces jeunes, même s'ils ne parlent pas, ils savent très bien se faire comprendre. Et tu verras très bien ceux qui veulent bien être filmés et ceux qui ne veulent pas. Il faut juste être assez observateur pour respecter ça.
Alors, dans votre filmographie, les enfants, les adolescents sont au cœur des thématiques que vous avez voulu traiter. Pourquoi?
Tout simplement, je suis encore, comment dire, j'ai l'impression d'être à peine sortie de l'adolescence. Enfin, l'adolescence, c'est quelque chose que je trouve, c'est une période de passage, une période très intéressante. C'est un peu le hasard, en fait, hein.
Alors justement, puisque vous traitez du réel, alors pensez-vous que le réel se loge du côté de l'adolescent, du côté de l'enfant?
Ah, c'est une question, je trouve la formulation très poétique, mais pareil qui me dépasse un peu. En tout cas, le réel, moi j'ai l'impression parfois de l'entrevoir quand je tourne, quand je suis en tournage, surtout quand je suis confrontée à des situations confrontantes. Donc évidemment, face à des questions intimes, j'ai eu l'impression à certains moments de voir quelque chose du réel, et en même temps, quand j'apercevais ça, j'avais l'impression qu'il y avait encore mille couches de croyances que je devais enlever, quoi, couche par couche, et qu'il y avait une infinité de couches comme ça qu'il fallait enlever pour réussir à atteindre ce réel. Donc voilà, j'ai l'impression parfois de le percevoir, mais de ne jamais l'atteindre.
Au fond, que voulez-vous que le spectateur comprenne de la psychose et de l'autisme à travers vos documentaires?
Tout simplement, moi j'ai envie de faire connaître ces états, ces rapports au monde qui ne sont pas considérés comme de la déficience ou du handicap ou quelque chose de négatif, de stigmatisant. Moi j'ai l'impression justement que l'être humain, dans son rapport au monde, dans son rapport au réel, peut y avoir une infinité de façons d'être au monde en fait. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la rencontre avec ces jeunes. Parce que ces jeunes si particuliers, si singuliers, nous apprennent en fait, nous apprennent beaucoup plus que nous, on peut leur apprendre finalement. Enfin, c'est-à-dire que notre savoir n'est pas toujours très intéressant face à ce que finalement ils nous font découvrir.
Alors, un film, c'est une mise en tension entre le tourner et le monter. Votre documentaire s'ouvre sur la nature, les feuilles d'un arbre ruissant au soleil, puis soudain, le silence. La caméra se fait extension d'un œil, d'un regard. Alors pourquoi ce silence?
Alors ça, je ne sais pas quelle version vous avez vue du film, parce que dans la nouvelle version, ça commence par une scène de nuit, comme une scène de théâtre. Ça commence par la nuit, en fait.
Oui,
parce
oui.
que j'avais envie de mettre le spectateur directement dans un autre état. Mais ensuite, on découvre la nature et ce silence. Et pour moi, ce silence ou ce bruissement des feuilles, c'est-à-dire on a l'impression que c'est du silence, mais non, c'est du son de nature très délicat, très subtil, pour moi, fait référence à une grande ouverture à cette question du réel, en fait.
Et le théâtre, pour mettre le spectateur dans un certain état, c'est-à-dire?
Entre guillemets, pour qu'il mette d'autres lunettes. C'est vraiment la difficulté, je trouve, de ce film-là. Comme il n'y a pas de commentaires, pas de discours.
Voilà, il n'y a pas de voix off.
Voilà, je pense, les gens qui ne sont pas un petit peu, comment dire, au fait des questions sur l'autisme, peut-être qu'ils peuvent leur manquer un peu les lunettes qu'il faut avoir pour pouvoir comprendre ce qui se passe.
Oui, oui.
Voilà, je pense que c'est un film qui n'est pas facile. Cette première séquence, pour moi, c'était dans cette idée de dire au spectateur, bon, là, maintenant, vous allez être plongé dans un rapport au monde très singulier de ces jeunes. Voilà, il faut mettre d'autres lunettes.
Mais au fond, dans ce film, la caméra s'arrête devant un regard. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est savoir, au fond, qui regarde dans ces séquences-là? Quand vous faites des portraits, enfin je ne sais pas comment vous le désignez.
Alors pour moi, cette caméra, je veux dire, c'est un peu du style indirect libre. Hein. Finalement, je suis présente hein, à la fin du film parce que j'interpelle Kevin. Mais c'est vrai que cette question d'énonciation est très complexe pour ce film-là. Qui regarde? Bah, c'est moi. Hein.
C'est voilà, vous qui
c'est
regarde.
Moi.
Oui.
Et parfois, non, j'ai envie d'être à distance, d'être.
Oui.
Qu'il y ait une neutralité dans le regard à certains moments donnés. Mais sinon, non, c'est moi qui regarde et j'affirme ma présence et ma relation aux personnes que je filme, voilà, de manière assez ténue. Mais c'est parce que de toute façon, dans ma relation avec Kevin ou aux autres jeunes, bah, je me dois d'être un peu en observation participante, c'est-à-dire que je réagis s'ils me demandent de réagir, mais sinon, on me disait d'ailleurs quand on m'a accueilli le premier jour, c'est « tu peux observer sans regarder ». Alors cette question, et c'est la question du regard, la question de ne pas braquer son regard sur quelqu'un.
Oui.
Mais ce qui est très drôle, c'est que la caméra, chez les névrosés ou les psychotiques, enfin, je veux dire, habituellement, dérange et on a l'impression que c'est une arme comme ça pointée sur soi et on n'aime pas du tout ça. Et en fait, avec ces jeunes autistes, pour la plupart, hein, je ne dis pas tous, le fait qu'il y ait un objet entre moi, entre mon regard et eux,
oui,
me permettait de m'approcher plus.
Voilà.
Parce qu'il y avait une médiation, moi je mettais l'écran LCD vers eux, donc ils savaient ce qui se passait. Et justement, ça, la caméra permettait une position plus proche, enfin en tout cas permettait oui, que je m'approche de jeunes qui sans caméra ne voulaient pas du tout se laisser approcher.
Voilà, ça c'est important. Comme si la caméra, on pourrait faire cette hypothèse-là, venait les abriter de votre regard.
Tout à fait, oui, tout à fait.